sévère le froid. Le comte est à rebours dans l'air nucléaire. Les derniers repères brûlent sous les lasers du manque d'amour. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra, un tueur ou un rat? Où veux-tu que je vive dans la radioactive? Où veux-tu que je meure, un bel acorminin? Je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Thank you.
me dis si je dois...
Alors, bonjour à toutes, à tous. Émission de soutien de la fin de l'année. Voilà. Au micro, Evelyne. Le tour de table à la technique, Laurent Garibian. Anne Delalleux pour ses chroniques théâtrales. Voilà. Et notre premier invité, Pierre Pradinas, pour Farces et Nouvelles de Tchekhov.
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Eh ben écoutez, on a écouté en début d'émission
un Tchaïkovski, un concerto, c'est le concerto pour piano
Alors oui, c'est le concerto pour piano numéro 1, c'était le deuxième mouvement avec la grande, Martha magnifique Algerich. Martha Argerich.
Oui, parce que tu m'as dit, Anne, oui, que... Tchaïkovski était copain, enfin copain,
si on peut dire, oui,
à cette époque-là.
Il s'admirait avec Tchekhov.
Il s'admirait mutuellement. Voilà. Voilà. Donc, bon. Alors, donc j'ai découvert ces farces et nouvelles de Tchekhov. En fait, je les ai vues plusieurs fois avec d'autres mises en scène. C'est toujours très agréable. J'en ai même plus en plein air. C'est toujours très agréable à voir. Donc, au Lucernaire, le 25 décembre. Dans une mise en scène de Pierre Pradinas, qui est en face de nous. Voilà. Et donc, vous allez nous parler de Tchekhov. Pourquoi vous avez envie de monter Farces et Nouvelles de Tchekhov? Alors, celle que j'ai vue, c'était Les méfaits du tabac. Ah, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. En fait, c'est un monsieur qui était chargé par sa femme, qui fait partie d'une association, de faire une conférence sur les méfaits du tabac. Et en fait, pendant la conférence, il parle de toute autre chose que cette histoire de méfaits du tabac. Il passe du coq à l'âne, enfin, il raconte sa vie quelque part. Et puis, on a compris que sa femme commençait à le taper sur les nerfs, parce que c'est elle qui le commande. Il est mort de peur par rapport à sa femme. Il obéit comme un petit toutou. Et puis, dès que sa femme a de tourner, il en profite pour se plaindre, etc. Enfin, c'est très, très drôle. C'est joué par Philippe Rebaud, qui a une belle présence sur scène. Alors, il y a celui-là. Ensuite, il y a La demande en mariage.
Ça qui fait toujours rire, ça.
Ah oui, oui, oui. Mais alors, La demande en mariage, ça commence... c'est très drôle. Donc, c'est un jeune homme qui... Alors, un jeune homme qui dit qu'il est cardiaque. apparemment, on pense qu'il est hypochondriaque. Enfin, il est toujours au bord de l'apoplexie. On pense qu'il va s'effondrer tellement il est mal dans sa peau. Il vient voir son voisin, je ne sais pas si c'est son voisin, propriétaire, et il vient pour lui demander la main de sa fille. Mais entre-temps, au cours de la discussion, ils ne sont pas d'accord. Celui qui est le prétendant c'est le beau-père, le futur beau-père. Mmh. Ils sont pas d'accord à propos d'un terrain qui appartiendrait à la famille de l'un plutôt que la famille de l'autre.
Et ça commence avec la jeune femme. C'est-à-dire qu'il y a
le petit prêt.
Oui, voilà, il commence à parler avec la jeune femme et voilà, elle lui rappelle que le terrain qu'il cite, lui, il veut bien faire. Il veut être dans le... Comment dire, dans le... Enfin, il lui dit tout va bien entre nos familles.
Non, mais il me semble qu'il commence déjà à s'engueuler avec le beau-père.
Alors non. Pas au début. Non. Il est mal à l'aise.
Mais enfin, déjà, le beau-père a l'air d'avoir une très mauvaise opinion de lui déjà dès le départ. Il me semble.
Voilà, il n'a pas une super opinion
de
lui.
Voilà, c'est
mais,
ça.
Mais il est ravi que le...
Mais c'est à la fin qu'il est ravi, oui. Parce qu'il a sa fille à marier, enfin bref.
Oui, c'est ça.
Donc, voilà. Et la fille, donc, elle le voit, et ils discutent par rapport à ce terrain, ils sont prêts à se battre, enfin, etc. Et puis, quand elle apprend que par son père, qu'il était venu le jeune homme pour la demande en mariage, elle change tout à fait d'idée, comme elle sait qu'elle va finir vieille fille, elle demande à son père de rappeler le jeune homme qui, qui est parti furieux, puisqu'ils ont failli se battre pour une histoire de terrain. Enfin bon, après, je ne vais pas raconter tout. Hein, il faut voir la pièce. Oui. C'est très drôle, hein, il faut reconnaître. C'est très très drôle, oui, bien très amené. Puis ça donne une idée un peu de... de ces rapports là entre paysans comme ils sont bien accrochés à leur terre et puis bien vifs hein, prêts à en découdre c'est vraiment c'est très drôle, c'est très drôle. Et ensuite l'autre, alors ça aussi, alors là c'est par rapport à un fonctionnaire qui,
ça s'appelle la mort d'un fonctionnaire.
Voilà, c'est la mort d'un fonctionnaire. Il se trouve qu'ils sont, je ne sais plus, c'est une parade ou je ne sais pas, ils assistent.
Moi, un concert.
Un concert, oui.
Les cloches de Corneville.
Voilà. Bonjour. 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 Juste une petite interruption pour accueillir les deuxièmes invités. La deuxième. Attendez. C'est Stigmate de la Gloire, hein, ouais. C'est ça.
Victoria Corda et Johannes Collin.
D'accord.
Enchanté.
Monsieur Pradina,
vous voulez passer là ?
Oui, oui, je vais passer là.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Oui, c'est ils assistent à un concert. C'est, je sais plus, ce fonctionnaire, c'est un petit fonctionnaire. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est toujours joué par Philippe Rébaud, ouais. Hein, qui est longiligne, grand, qui a qui en impose quand même. Et puis un général. Alors, il fait plus jeune le général. Il en impose un petit peu moins. Enfin, le général, soi-disant. Ils sont donc tous les deux assis côte à côte. Et à un moment donné. L'employé, enfin je sais pas quel est le grade d'un fonctionnaire, oui.
Du ministère de l'Intérieur.
Oui. Ouais. Il éternue et il postillonne sur le général. Et alors là, c'est. Alors le général a dit bon, ben c'est pas très grave, etc. Mais le fonctionnaire, il s'est mis en tête que le général allait lui en vouloir. Et alors ça devient une obsession. Enfin bon, c'est ça finit, et puis ça finit, je sais plus.
Ben il meurt.
C'est ça, hein. C'est la mort.
COVID.
Hein.
Il a le Covid parce qu'il a postillonné l'autre.
Pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il veut tout le temps s'excuser.
Oui. Enfin, il
veut aller plus loin et
il meurt, oui, parce que à la fin, le général, comme il en a marre, et il le fout à la porte. Enfin, il le fout à la porte. Il dit, j'en ai assez de vous voir. Je voulais vous excuser, mais ça commence à bien faire. Je vous ai dit que c'est pour moi, c'était pas grand chose, et ben, il en fait une maladie, le fonctionnaire. Et il meurt de ça. Ouais. Il meurt de ça. Donc c'est très drôle. C'est un spectacle qui dure à peu près une heure. Et on en sort, on est guiré, on est content. Et puis en même temps, ça donne une idée un peu de l'atmosphère de l'époque, là, en Russie, à la fin du 19e. Effectivement. Puis alors, ces histoires de fonctionnaires, on voit ça chez Gogol, on voit ça chez Dostoïevski, c'est un truc qui marque beaucoup les écrivains. Hein. Enfin, cela dit, pourquoi vous avez envie de monter cette pièce ?
Ben justement, parce que ça dépasse l'époque, en fait, où ça a été écrit. C'est-à-dire qu'on, là, par exemple, c'est vraiment le typique d'un fonctionnement, totalitaire. Le fait d'éternuer sur un général, ça suffise pour que le type doive s'expliquer sans cesse jusqu'à en mourir. C'est symboliquement, c'est assez puissant là-dessus, par exemple.
Ouais.
Mais aussi parce que moi, j'adore Tchekhov depuis très longtemps et je trouve que voilà, il y a une dans là, c'est des farces. Donc, même s'il a toujours défendu l'idée que ses pièces étaient des comédies, même si ici, en général, on préfère la mélancolie qu'il y a dans Tchekhov, mettre en avant la mélancolie sans mettre beaucoup en avant la part de comédie qu'il y a. Lui, en fait, il était attaché à ça. Et dans ces courtes pièces, dans la dernière dont vous parliez, là, c'est une nouvelle.
Là, c'est une nouvelle, oui. Ça a été adapté, alors.
Non.
Non.
C'est la nouvelle, c'est le texte intégral de la nouvelle.
Ah oui, d'accord.
Les acteurs disent tout, ils disent à la fois le texte narratif et les répliques des
personnages. D'accord, d'accord. C'est une nouvelle, ouais. D'accord.
Et donc, voilà, j'ai déjà monté dans le passé La Mouette et Oncle Vania. Et là, j'ai eu envie de travailler avec ces comédiens-là autour de ces formats courts, là.
Oui.
Parce que je trouvais ça intéressant. Et puis, l'idée, elle est venue à une époque où on a eu envie, au moment du Covid, etc., de sortir des grandes scènes où j'ai souvent travaillé. Et là, c'était l'envie d'aller jouer dans des endroits qui ne sont pas spécialement dédiés au théâtre. Voilà, on a pu le faire d'ailleurs. On a joué avec la scène nationale d'Alès, on a été joué dans des villages.
Oui.
On s'était organisé tout ça. Et dans des salles des fêtes, dans des trucs comme ça. Et
J'ai pas vu votre mise en scène, je l'ai vu au Lucernaire. Mais j'ai vu jouer ces pièces en plein air et ça marche super bien.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Ouais, dans un jardin, je ne sais plus, ça marche super bien. Parce que c'est, je sais pas, c'est un petit côté même, ça dépend des mises en scène, c'est un petit côté comédia dell'arte, je trouve, un petit peu. Bien, c'est pas exactement le truc, mais c'est aussi vif que dans une comédia dell'arte.
Voilà, dans le style de jeu, on a essayé justement que ce soit assez... on essaie de crédibiliser les personnages, de pas forcément faire des ladzi ou des blagues, etc. On essaie d'être très très proche
du texte.
Du texte et des personnages. Essayer justement de leur donner
que ce soit humain. Parce que certains, ça dépend, il y en a qui grossissent les personnages. Presque jusqu'à la caricature, j'en ai vu comme ça des mises en scène, mais là ça reste très très proche, hein, très.
Ouais, du coup c'est plus cruel et donc c'est pour moi si c'est plus cruel c'est plus drôle.
Oui. Non, mais c'est vrai ça. Oui, cette histoire de fonctionnaire qui meurt parce qu'il a éternué sur le général, il y a de quoi. Non, mais je comprends, hein. Je comprends, ça vous fait rire. Hein.
Ça m'amuse.
Ah oui. Parce que vous êtes en train de vous moucher. Hein. Vous êtes en train de vous moucher, attention.
Elle va éternuer. Moi, je suis assez éloignée.
Et puis, il y a la mise en scène aussi, Aïdine, au début. Qu'est-ce que fait le technicien sur le scène, enfin, c'est marrant, vrai,
à un moment, il s'arrête de jouer un peu avant la fin.
Voilà, oui.
Il y a des... En fait, c'est une sorte d'équipe d'incapables. En fait, qui font tout pour que ça se passe bien et qui, en fait...
Ils se prennent les pieds dans les chaises et tout ça.
Tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, sur une scène de théâtre, quand on veut faire attention.
Oui, ça c'est
alors,
très drôle aussi.
Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore. Je ne pense pas. Tchekhov, voilà. Je vais essayer de vous passer en direct un extrait de la pièce que nous avons vue, Anne et moi. Alors, Laurent, je suis là et on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, est-ce que ça marche? Alors, VLC.
Mesdames, et si je veux dire, messieurs, ma femme s'est vue proposer qu'au titre des œuvres philanthropiques, je donne ici une conférence sur un sujet quelconque. Grand public. Bon, une conférence, va pour une conférence, ça ou autre chose, aucune importance. Bien entendu, je ne suis pas professeur et je ne jouis d'aucun titre scientifique. Mais, nonobstant, quand même, voilà déjà 30 ans que sans trêve ni répit, on peut même dire au détriment de ma propre santé, et ainsi de suite, je me penche sur les questions d'ordre strictement scientifique. Je médite, et parfois même j'écris, figurez-vous, des articles scientifiques. Alors, c'est-à-dire, non pas à proprement parler scientifique, mais quoi, passez-moi l'expression, comme qui dirait pratiquement scientifique. Ces jours-ci, entre autres, de ma plume est sorti un volumineux article intitulé « Des méfaits de certains insectes ». Mes filles ont beaucoup aimé, surtout ce qu'il y avait sur la punaise. Mais moi, si t'as lu, droit au panier. Parce que peu importe ce qu'on peut écrire, de toute façon, pas moyen de se passer d'insecticide. Chez nous, il y a des punaises jusque dans le piano. Alors, comme sujet de ma conférence de ce jour, j'ai choisi, pour ainsi dire, les méfaits causés à l'humanité par l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné ordre aujourd'hui de parler des méfaits du tabac. Donc alors, pas de discussion, le tabac va pour le tabac. Ça a autre chose pour moi, aucune importance.
Voilà, un petit extrait.
C'est les méfaits du tabac, oui. Et c'est Philippe Rebaud.
Voilà, c'est ça, oui. Oui, Philippe Rebaud, d'ailleurs, qu'on a vu à la télé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, une série, un film avec Romano Boringer.
Oui, il a tourné dans L'Amour Flou, la série.
Voilà, L'Amour Flou. Voilà, voilà. J'en ai vu des extraits, c'est très drôle aussi. Oui. Hein.
Ils racontent leur propre vie.
Oui. Ils vivent. Ils se sont séparés, mais ils vivent dans le même dans la même maison. Ouais, et c'est la maison coupée en deux, l'un dans l'appartement et l'autre dans.
Ouais, les enfants au milieu.
Les enfants au milieu. C'est très drôle. Moi, j'ai vu ça.
Mais ils font vraiment ça.
Oui, je sais. Ah oui, oui, c'est ça.
C'est l'autofiction.
Ouais.
Oui, c'est l'autofiction, oui. C'est à la mode, oui. Enfin, c'est la mode. Enfin, on en parle beaucoup d'autofiction. Oui, alors donc, c'est un spectacle très, très, très léger. Moi, j'ai trouvé que c'était très léger, mais c'est voulu. C'est voulu que ce soit léger. Parce que, comment dire. Ben, ça change un peu de. Bah, de l'atmosphère peut-être actuelle, quoi, je sais pas. Ça permet aussi de, comment dire, de se rendre compte du recul qu'avait Tchekhov un peu sur, dans la vie, parce qu'en fait, Tchekhov, il était quand même confronté à la misère, puisqu'il était médecin de campagne, donc il ne voyait que des choses très dures.
Hein. Oui.
Et en même temps, il avait un regard, comme on dit, assez tendre sur les êtres humains qu'il avait l'habitude de côtoyer. Oui, allez-y.
Oui, dans ces grandes pièces, il met en scène tout un tas de personnages du haut en bas de l'échelle sociale et tout. Là, dans les farces, on dit farce, mais bon, c'est des courtes pièces. Il met en scène justement des personnages plus modestes, d'origine plus modeste. Là, c'est des paysans, c'est
un employé, fonctionnaire.
Voilà. Et dans ses nouvelles aussi, beaucoup, énormément, il met en scène des gens du quotidien, qu'il rencontre au quotidien.
Oui.
Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de monter ça aussi. Et la légèreté, oui, parce que, il assène pas un point de vue d'une façon...
Il porte pas de jugement.
En apparence, voilà.
En apparence.
Je veux dire qu'on peut écouter ça en étant un peu, justement, on n'a pas besoin de recevoir une leçon, quoi.
C'est à la fois divertissant et en même temps c'est choquant, justement, cette histoire d'éternuement.
Ça en dit long quand même sur ce que je disais.
Oui, c'est ça, oui, sur l'ambiance à l'époque. Ouais. Et bien, moi, ce qui me frappe quand même, que chaque fois qu'on a affaire à des auteurs du 19e siècle russe, les questions de fonctionnaires, c'est drôlement lourd cette histoire de fonctionnaires. La bureaucratie, et ça continue.
Ouais, c'est vrai.
C'est dingue ça, ils ont ça dans le... C'est enraciné, hein. C'est terrible, hein, parce que Dostoïevski, qu'est-ce qu'il a pu écrire? Les carnets du sous-sol, Gogol, c'est vraiment, c'est un truc qui... c'est mortel, quoi. C'est mortel. Enfin, ceci dit, c'est...
Moi, je dirais plutôt c'est la bureaucratie.
Oui, la bureaucratie, c'est ce que je dis, oui. Mais c'est mortel parce que les gens, ils en souffrent, quelque part. Là, c'est une critique de la société.
Oui, bien sûr.
Hein? Alors, bon, ils n'en sont pas sortis, hein, mine de rien. Pas vraiment.
Non, bien.
Oui, qu'est-ce que tu en as pensé, Anne?
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, le dynamisme des comédiens, leur investissement. J'ai trouvé ça très drôle. Moi, je revois toujours avec plaisir les méfaits du tabac. On le donne un peu moins, la demande en mariage, on la voit souvent, mais c'est toujours très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup, toujours. Et je ne connaissais pas le drame, un drame. entre l'auteur, cette espèce d'emmerdeuse qui vient absolument imposer son roman à un autre auteur qui est lui, alors il faut surtout pas le déranger, oh là là. Mais c'était quelque chose, c'était vraiment très drôle aussi, là. Ça aussi c'était...
Bon, ça nous est tous arrivé de se voir infliger les œuvres personnelles de quelqu'un qu'on n'a pas envie d'écouter pendant des heures. Et voilà, c'est un peu ce qui arrive dans un drame.
Et oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et c'est très drôle.
On finit par la tuer, d'ailleurs.
Bah, d'ailleurs, il y avait une anecdote, j'avais lu ça, c'était Gisèle Casadesus. Gisèle Casadesus qui était allée voir le directeur d'école de son fils, Jean-Claude. Et malheureusement, pour lui empêcher le gamin d'avoir une mauvaise note, le directeur lui avait dit « Ah, Madame Casadesus, j'ai écrit des poèmes, si vous pouviez jeter un œil dessus. » Alors elle n'a pas osé dire non, mais elle n'a pas donné suite, sans doute, mais bon. Et ça, c'est toujours pareil.
C'est précisé dans la nouvelle, à la fin d'ailleurs, que la dernière phrase, c'est « Il fut acquitté ».
Oui. En plus. Et vous pensiez que ça aurait été trop long de passer les quatre, là? Un drame, demande un mariage, j'ai mis fait du tabac, la mort d'un fonctionnaire.
Non, on aurait pu ajouter une des nouvelles en tout cas.
Ouais, un drame, moi j'aurais bien aimé l'avoir.
On aurait pu l'ajouter, c'est au Lucernaire, les créneaux horaires ils sont quand même un peu limités.
Parce qu'une heure, c'est pas beaucoup, une heure.
Ouais, hein. Ça fait 1h05 à peu près, c'est ce que vous avez vu.
Oui.
Sinon, c'est un peu plus long, mais de toute façon, c'est on n'a pas pris de risque au départ.
D'accord.
Si ça n'allait pas dépasser et tout, mais effectivement, on aurait pu ajouter un...
Enfin, je pense que peut-être, pourriez, oui. Ouais. Ça ferait pas de mal.
La prochaine fois, peut-être, on fera ça. si on le reprend, on fera ça.
Alors, on va dire où ça se passe.
Oui. Au Lucernaire.
Au Lucernaire. L'adresse, c'est...
Notre-Dame-des-Champs.
Rue Notre-Dame-des-Champs. Je
voulais préciser qu'en ce moment-là, on peut voir, en dehors de Philippe Rebaud dont on a parlé, on peut voir Louis Ben Mokhtar,
Aurélien
Chaussade et Prune Ventura.
Voilà, voilà, ils sont tous très bons, tous très bons. Ils sont moins connus, bon, parce que peut-être qu'ils ne sont pas passés à la télévision. C'est vrai que c'est la télévision qui fait connaître les gens, hein. C'est malheureux à dire. Hein. Il y a des très grands comédiens au théâtre, mais comme tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer au théâtre, on les connaît pas. Voilà. Mais ils sont très bons aussi. Hein.
Les horaires.
Donc, rue Notre-Dame-des-Champs, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e à Paris. Et les horaires, donc... alors, c'est écrit tout petit, hein, et comme moi, je suis...
C'est 19h, et le dimanche à...
À 19h, du mardi au samedi.
Le dimanche à 16h, sauf demain.
Parce que
c'est le 31, et c'est à 19h.
Ah, tout le monde prépare le réveillon, hein.
Voilà.
Ah là là.
Vous êtes jusqu'à quand?
Jusqu'au 7 janvier.
Ah, 7 janvier.
J'ai très envie, j'avais déjà vu l'affiche, j'étais passé devant le Lucernaire, j'avais vu l'affiche. Vrai,
ouais.
J'adore Tchekhov, donc c'est super, et puis comme on connaît... plus les drames, donc voir de la comédie de Tchekhov.
C'est complet.
C'est complet. J'ai remarqué que c'était complet, effectivement, quand je suis allée le 25 décembre.
Mais bon, il y a peut-être toujours une place, il y a des gens, il y a des ajustements, il y a des trucs, c'est toujours possible.
D'accord. Oui, c'était complet, c'était très applaudi. Ça marche du tonnerre, en fait.
C'est mérité.
Oui, c'est complet.
Et donc... il y aura certainement une reprise ou une tournée.
Alors on en parle en ce moment d'une reprise la saison prochaine.
Oui.
Et puis une tournée probablement aussi. Ouais.
D'accord.
Ça, c'est pratiquement sûr, mais on ne sait pas encore quand exactement.
Bon. En tout cas, ceux qui ont la possibilité d'y aller, je crois qu'ils ne seront pas déçus. Hein.
Non,
voilà, c'est un très joli spectacle. On va peut-être donc en pause musicale. Voilà, on a du Tchaïkovski. Hein.
Tchaïkovski.
Oui. Et donc, qu'est-ce que vous, on a autant de Tchaïkovski que vous voulez.
Ah, la culture russe, c'est magnifique.
Ouais.
C'est tellement beau.
Alors, qu'est-ce qu'il va donner Karim Benguerov, oui, d'accord. Numéro 6. Alors, c'est la plage numéro 6.
Oui. Voilà.
Alors, oui, c'est bien le... Eh bien, la symphonie numéro 2, c'est le scherzo, et c'est donc l'allegro molto vivace, et c'est donc inspiré d'une chanson ukrainienne, puisque ça a été composé en Ukraine.
Voilà, bon, ben, on en parle beaucoup, l'Ukraine, en ce moment. Oui.
Thank you.
Alors, nous allons passer à la...
La petite chronique. La chronique de la petite Anne.
De la grande Anne.
Ouais. Dieu. Oui, alors, la dernière fois, j'ai pas pu vous parler. Alors, il y a encore une semaine pour emmener les enfants au théâtre. Alors, n'hésitez pas. Il y en a partout. Vous allez voir dans vos quartiers s'il y a des... Il y a toujours des séances pour les enfants. Si vous ne savez pas caser vos gamins pour la dernière semaine de vacances scolaires, quand ils auront fini de casser leurs jouets et tout.
Oh là là.
Si, bon, quand même. Bon. Alors moi, je vais vous parler de la Maison du Loup qui se joue et qui va se prolonger jusqu'au fin janvier, peut-être plus. La Maison du Loup de Benoît Solès, qui avait écrit La Machine de Turing. Et là, c'est sur Jack London. Et Jack London donc reçoit un été avec sa femme Charmian. Ils reçoivent Ed Morel qui a été emprisonné, qui a été torturé physiquement, mentalement, et il vient chercher l'aide de Jack London pour pouvoir sauver son ami Jacob Elbert de la pendaison. Donc il espère que la notoriété de Jack London va faire que celui-ci va décrocher son téléphone et appeler le gouverneur pour empêcher cette pendaison. Donc c'est toute une histoire donc des rapports d'amitié, aussi le rapport à l'alcool de Jack London qui avait son grand copain Johnny Walker. Jack London n'a pas écrit depuis des années et Charmian, en lisant l'article de Ed, trouve que c'est une occasion formidable et un sujet merveilleux pour un nouveau roman. Donc là, ça se bataille un petit peu entre Ed, qui ne veut pas qu'on se serve de son histoire pour en faire de la publicité, en faire un roman, et Jack London, qui lui, alors il hésite beaucoup, alors il n'y a rien à faire. Bon. Et puis Ed va raconter ses années de souffrance en prison, ses tortures mentales, et donc ça va aboutir à un nouveau roman de Jack London, le voyageur aux étoiles, ou le vagabond des étoiles. Bravo, j'ai même pas noté le truc. Enfin, voilà. Mais donc, ça vous donne envie déjà d'aller voir la pièce, qui est très bien jouée par Benoît Solès. Il fait aussi une grande performance d'acteur. Par Amaury de Crayancourt, dans le rôle de Jack. Et Anne Planté, qui joue donc Charmian, l'épouse. Donc, ça se donne au Théâtre Rive-Gauche. C'est à 21h. Du mardi au samedi et le dimanche 17h je crois ou 15h. Donc je vous conseille d'aller voir La Maison du Loup de Benoît Solès au Rive Gauche. Et j'ai vu aussi, alors j'ai revu au Théâtre Héberto Le Repas des Fauves. C'était une œuvre de Vahed Katcha qui est décédée d'ailleurs cette année. L'adaptation et mise en scène de Julien Cibre. Le Repas des Fauves, c'est quoi? C'est en 42, sous l'occupation, Sophie fête son anniversaire. Donc, elle invite tous ses amis. Et elle invite naturellement... Il y a André, Jean-Paul, docteur, qui... Il a dans sa clientèle des officiers allemands. Mais bon, qu'est-ce que faire de plus, hein, de toute façon. Il y a Vincent, qui est prof de philo. Et André, lui, il est parfaitement à l'aise dans son rôle de collabo. Mais quand même, il amène pour la fête, il amène du salami, du champagne. Donc, il y a des choses qu'il laisse passer, ma foi. Et puis, malheureusement, on assassine devant leur immeuble deux officiers allemands. Donc, les officiers qui arrivent, ils arrivent dans l'immeuble. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent des otages. Un officier allemand arrive dans l'appartement de Sophie et lui dit bah, « Écoutez, vous avez à choisir parmi vos invités deux otages. » Alors là, ça plombe l'ambiance, bien sûr. Et donc, les fauves, ce sont tous qui, par lâcheté, est-ce qu'on peut vraiment juger? Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Par lâcheté, ils doivent choisir, ils se disent mais toi, tiens, tu pourquoi pas, mais après tout, tu ne seras rien, enfin ceci, cela. Donc, il y a toute une histoire là-dessus, la lâcheté, sur le sujet de se défendre, de sauver sa peau. Donc, si vous pouvez aller voir aussi Le Repas des Fauves, de Vaekatcha. C'est en priorité aussi avec des, enfin, les acteurs sont très très bons, excellents. Il y a Thierry Frémont qui joue le rôle de André. Voilà, donc c'était celui-là que j'avais. C'est deux pièces que j'ai bien aimées. Le repas des Fauves au Théâtre Héberto et le, la Maison du Loup, donc au Rive Gauche. Et ça se jouera encore en janvier. Il y a des prolongations, et je pense un petit peu plus tard. Alors, curieusement, le, au Théâtre Héberto, ils auraient dû jouer une pièce avec la lumineuse Ludmina Michael, que j'adore, et Pierre Arditi. Mais Pierre Arditi, pour des raisons que l'on sait, des raisons de santé, ne pourra pas faire une création. Donc, ceci fait cela. Quoi. Voilà. Donc, ça sera bien dommage pour nous. Mais bon. Et on a vu avec Mademoiselle Evelyne, on a vu Madame Marguerite au Théâtre
Essayon. Ah, on n'en parle pas maintenant.
Mais on n'en parle pas maintenant, comme elle me dit.
Ah non, voilà, parce que c'est raison. Un peu plus long.
D'accord.
On a un entretien à diffuser.
Oui.
Et la bande-annonce. Donc, on va passer voilà. à nos jeunes invités.
À nos jeunes gens. Voilà.
On redit quand même que il faut aller voir Farces et Nouvelles de Tchekhov.
Ou le Cerner.
Aujourd'hui, nous avions comme invité Pierre Pradinas, qui signe une mise en scène, une superbe mise en scène de ses farces, hein, avec Maestria et Légèreté. Et Légèreté.
Et on en a
voilà, vu. Au Lucernaire.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Alors, nos jeunes invités. Stigmate de la gloire. Alors, en préambule, je sais pas pourquoi ça, je sais pas si c'est un rapport extraordinaire. On va, je pensais passer donc le morceau que vous aviez choisi, d'Elton John.
Oui.
Bah ouais, on va écouter Elton John. En plus, ce qui nous touche beaucoup, c'est que c'est lui qui a remis en selle Britney Spears, qui est la grande inspiration de la pièce. Et après sa sortie tutelle,
ils ont enregistré une chanson ensemble, Hold Me Closer.
Voilà, qui est une reprise d'une de ses anciennes chansons, et il l'a fait chanter.
Alors,
avec lui, donc voilà.
J'ai commis une erreur, c'est que je ne vous ai pas présenté. Donc, vous êtes co-autrice. D'une pièce qui s'intitule Les Stigmates de la Gloire.
Ouais.
Vous vous présentez.
Alors moi c'est Johannes Collin, j'ai 30 ans.
Et ouais. Moi c'est Victoria Corda et j'ai 25 ans.
Voilà, on est tous les deux, on s'est rencontrés au cours Florent en première année. On a fait nos 3 années de formation de comédien, comédienne au cours Florent.
Et on a décidé d'écrire ensemble autour d'un sujet qui nous tenait à cœur. Parce que comme on est des enfants des années 90-2000, on a grandi pendant cette période-là, on s'est construit autour de ces icônes déchues. Et apparemment, on n'est pas les seuls, finalement. Parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'on a eu un public de tout âge et de tout horizon, et qui retrouvait des icônes du passé, qui n'étaient pas forcément nos sources d'inspiration de base. On a eu des Dalida, des Mylène Farmer. On a eu tout type d'icônes qui est passé. Que les gens nous ont dit « Ah, ça me rappelle Dalida, c'est fou !» Alors qu'en fait, pas du tout. Mais effectivement, on s'est construit avec cette image de la femme déchue, criblée par les médias. Et nous, encore plus avec l'apogée d'Internet. Donc, on a vu vraiment cette crucifixion de ces icônes.
Oui, et alors le mot crucifixion, ça fait partie, d'un morceau de choix. Peut-être qu'il faut peut-être pas tout divulguer parce que
je pense que ça fait partie d'une pattern qui remonte au moins à Marilyn Monroe, de femmes qui sont été au devant de la célébrité et qui ont connu des entourages toxiques, des hommes mal intentionnés autour d'elles, ou plus largement le patriarcat de la société qui les a fait chuter, oui.
Oui, 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 oui. Bon, alors, on va passer le morceau d'Elton John.
Du coup, c'est Your Song,
voilà.
Un de ses
tubes. Et ensuite, je passerai un extrait de la pièce.
It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Oui, elle est très belle, hein. Oui.
Moi, j'adore.
Moi, je suis content de ce choix parce que bah, la pop culture, c'est quelque chose qui nous appartient à tous aussi, et c'est un peu un des sujets de la pièce.
Voilà. Alors, on va quand même, je vais quand même essayer. Alors, c'est toujours une manipulation. Je m'installe devant le micro. Un petit extrait du spectacle. Hein. C'est juste le début, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors. Il faut que j'ai une petite manipulation, mes fichiers, téléchargement. Il faut que je remonte mon voilà.
Par les faits divers. Pardonnez ma question rhétorique. Je sais que peu d'entre vous oseront l'admettre, mais sous cet amas de chair se cache en nous un être bien plus pervers. On passe son temps à se dire qu'on est du côté de la victime. On éprouve de la compassion. Moi, je ne ressens pas ça. Du moins, je ne m'en persuade pas. Si je suis autant vaccinée par la mort, ce n'est pas par devoir de mémoire, mais pour toucher ma propre mortalité du bout des doigts. C'est par excitation. Excitation de savoir ce que ça fait d'ôter une vie. D'entendre ce petit crack d'une fraction de seconde quand les fils se coupent. Ce petit crack avant de sombrer dans l'horreur et le sordide. C'est ce petit crack qui donne son sel aux accros du corps. Dès l'instant où vous êtes assis dans vos sièges, vous avez tous signé pour assister à la mise à l'eau tragique et pourtant inévitable de... Et maintenant, que le spectacle commence!
Et voilà. Alors, donc ça, c'est le début, hein, c'est tout le début du spectacle, qui donne un peu le ton du spectacle. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, pas drag queen, là, je sais pas quoi, mais un peu, et puis fantastique aussi, hein, un peu côté un peu fantastique. J'ai même pensé à du Frankenstein, hein, là, parce que le début, là, il y a l'histoire de la mort, là, l'anse de la mort... Enfin, vous avez eu plusieurs références, j'ai l'impression, pour créer ce spectacle, ouais.
Oui, dans les inspirations, en termes d'écriture, effectivement, il y a eu plusieurs inspirations. Mais non, en fait, on révèle déjà on va dire, toute la ligne conductrice du spectacle, qui est le fait d'être martyr d'une société. Et en fait, comme on l'aborde, c'est plus une mort métaphorique qu'on aborde. Et c'est comment toute la société nous conduit en tant que femme à renier, dès qu'on est une personnalité publique, à se renier en tant que femme.
Oui, oui, donc, d'accord. Mais je sais pas, alors donc, on est un peu dans... On est dans showbiz, hein. Mmh. On voit les... ce sont des bimbos, hein. Ce sont des super femmes mannequins, longilignes... pour expliquer aussi qu'on les force à être minces, etc. On les fait vomir. Elles sont victimes de machos qui les traitent comme... En fait, c'est presque de la prostitution. On a presque l'impression que ces vedettes sont prostituées.
C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. C'est même une phrase que dit la comédienne principale Nancy Loïs. Elle dit pour ne pas tomber, elle a décidé de devenir son propre proxénète. Mm. Donc c'est vraiment de la prostitution, mais c'est presque quelque chose que comment dire qu'on intériorise en tant que femme. Finalement, c'est parfois plus simple de ne pas forcément se battre contre le patriarcat, mais parfois on finit par l'intégrer malgré nous, et ça ressurgit dans certains de nos comportements parce que c'est tellement plus simple.
Non, parce que en fin de compte, bon, les féministes elles luttent pour que la femme ne soit plus considérée comme un objet, mais juste un objet de désir. Bon, d'accord, mais ces femmes-là, c'est pas des femmes romantiques, quoi. Je veux dire, c'est pas les femmes adulées Quoique Baudelaire, il n'était pas très gentil avec les femmes. Mais enfin, c'est pas les femmes de Nerval. Là, c'est encore autre chose. Franchement, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu dans le spectacle. Ce sont des femmes traitées comme des putains. Un peu.
Ouais, hein. Mais tu mets le point sur différents points importants. Je pense que dans la recherche d'écriture, de mise en scène, de scénographie, on a cherché justement à parler de sujets que d'aucuns jugeraient assez superficiels. Voilà, c'est starlettes qui sont vraiment des produits préfabriqués, un peu qui font de la musique très commerciale, et voilà, et qui sont très populaires, qui sont écoutés par tout le monde, mais qui sont pas dans quelque chose de vraiment très artistique, très sincère. Et comment derrière on peut trouver de la profondeur? Parce que de la profondeur, il y en a, voilà. Et puis en plus, ça amène des vrais sujets sociétaux par rapport à la place des femmes, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, en tout cas, je voulais creuser, mettre de la profondeur dans quelque chose qui est assez dans les paillettes et dans la surface et que d'aucuns jugeraient un peu creux. Et voilà, on s'est beaucoup inspiré de la figure de Britney Spears. Et je pense que Britney, elle a beaucoup plu aux femmes et pas mal aux hommes gays, parce que c'est vraiment une icône gay. Parce que justement, malgré ses côtés surface, poupée Barbie parfaite, derrière, elle a su insuffler une certaine sincérité, une certaine fragilité, une gentillesse qui fait partie de sa personne et où tout n'était pas complètement calculé.
Puis elle s'est aussi réappropriée les mécanismes de la misogynie qu'il y avait, c'est-à-dire qu'après sa rupture avec Justin Timberlake, qui l'a traîné dans la boue, elle m'a cocu, alors que lui, il s'est tapé toutes ses danseuses.
Permettez-moi de vous interrompre, mais pour les auditeurs et auditrices, de quelle vedette vous parlez?
Britney Spears.
Ouais, voilà. Alors,
elle a commencé très très jeune. À 10 ans, ses parents, ils l'ont vraiment poussée sur le monde de la scène. Elle savait qu'elle voulait être une star, qu'elle voulait chanter. Voilà. C'était sa passion. Mais elle a vraiment été mise sous le feu des projecteurs. Et le truc, c'est qu'elle est arrivée en même temps. Elle s'est retrouvée tout d'un coup à devenir la star la plus connue au monde au début des années 2000. Et elle s'est retrouvée juste au moment où la presse, les réseaux sociaux connaissaient un essor. Et du coup, comme elle était femme, elle s'est retrouvée au devant de ça et elle en était la première victime.
Très clairement. Elle a pris vraiment pour son grade. Il y a à savoir, il y avait même je sais plus comment c'est, je connais très très mal le système américain, mais une personnalité politique publique qui a affirmé à la radio, enfin à la télé pardon, que si elle croisait Britney dans la rue, elle ne se gênerait pas pour lui tirer une balle.
Ah ouais.
On parle quand même,
c'est grave quand même.
De femme à femme, c'est quand même très très grave. Et elle a vraiment été surmédiatisée, et surtout qu'elle s'est réappropriée son image après cette rupture en se sexualisant. Et ça a sorti justement des chansons qui sont géniales, Give Me More, qui sont devenues toutes les chansons qu'on peut encore entendre aujourd'hui en boîte, parce qu'elles sont énormes.
Ah oui, d'accord.
Ah oui,
d'accord.
Non, mais elle s'est servie de ça, et nous, c'est vrai que comme on a vu tout ça, on a voulu en parler, et on a créé une star fictive, Bella.
Bella, Britney. Mais j'ai pas vu tellement de ressemblance entre Bella et Britney.
C'est justement parce qu'on a cherché une comédienne qui au final lui ressemble pas du tout.
Ah non, on ressemble pas du tout.
Et du coup qui pouvait apporter complètement autre chose. Je sais pas, Nancy, elle est plus Amy Winehouse peut-être.
Ah oui. Dans son image,
dans le style.
Ouais.
Du coup, c'était intéressant justement. Ça apporte quelque chose d'avoir ce côté très superficiel de Britney et en même temps dans certains passages de l'écriture peut-être, ou dans une esthétique qui peut avoir très des côtés vulgaires aussi, très pop, très rose, et en même temps d'avoir quelque chose de beaucoup plus trash, beaucoup plus profond. Nous, on s'est beaucoup inspiré de André Licalidel, voilà, qui est une autrice qui nous a...
Qui est incroyable, cette femme est incroyable, mais c'est vrai qu'elle écrit des textes d'une violence.
Oui, j'ai trouvé être accroché. Que la fin était violente, quelque part, hein. Même si
Mais c'est un peu ça, c'est un peu qu'est-ce que ça donnerait si Britney rencontrait André Lickalidole, et voilà, c'est un peu ça
ah ouais,
la
c'est
pièce.
Ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai trouvé que la fin était quand même assez violente. Bon, je ne vais pas raconter parce que ça déflorerait le contenu de la pièce pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, il faut aller la voir. C'est très, comment dire, il y a un côté trash, hein.
Ah oui, totalement, et totalement assumé, parce que je pense qu'à un moment, la société dans laquelle on vit, il ne faut pas non plus mettre des œillères et penser que tout est tout rose et qu'on vit chez les bisounours. Le monde est trash, le monde est dégueulasse, il y a encore des porcs plein les rues. Donc, au bout d'un moment, si on ne veut pas l'entendre au théâtre, bah, éradiquez-le aussi des rues. Enfin, il y a un moment, le trash existe. Donc pourquoi vouloir le cacher? Pourquoi vouloir le masquer? Au contraire, il faut le montrer pour le dénoncer.
Ouais.
On dénonce beaucoup en ce moment d'ailleurs.
Et alors, il y a pas beaucoup d'hommes dans la pièce,
hein? Non, avec un seul personnage masculin.
Le pauvre.
Ah oui, il prend un peu, il prend un peu cher pour tous les hommes.
Franchement, il a pas de beau rôle, hein.
Non, alors que c'est un petit cœur en plus dans la vraie vie, on l'aime beaucoup. Il est très content d'être entouré que de femmes.
Ah bon?
Il vit très bien.
c'est que des bimbos, hein, ces femmes là.
J'avoue qu'on a une équipe, tout le monde est très très beau dans cette équipe, c'est assez fascinant.
Vraiment que des belles femmes. Hein.
Déjà les auteurs sont très beaux.
non mais c'est pas ça, mais c'est difficile pour le public lambda de s'identifier à ces belles femmes, hein. Franchement.
C'était pas évident, nous non plus, de d'écrire sur la célébrité, parce que c'est en soi, c'est quelque chose qui nous fascine, c'est quelque chose qui est très central dans notre société actuelle, d'être fasciné par des icônes. Je pense qu'une partie de la société est construite là-dessus aussi. Bah, elles sont là aussi pour faire rêver les masses, pour imaginer qu'il peut y avoir autre chose, quelque chose qui est plus grand que la vie.
Oui.
Mais
un autre destin, tout simplement, pour se réinventer. Voilà.
Mais d'ailleurs, je pense...
Mais pour nous, en tant qu'auteurs, on a quand même dû se projeter là-dedans, s'imaginer qu'est-ce que c'était...
Vous ne me regardez pas, vous regardez votre co-autrice, mais vous ne me regardez jamais.
Jalouse.
Oh, oui, je suis jalouse, non, c'est pas ça, parce que je n'ai pas l'occasion
voir. C'est la première fois qu'on est en direct à la radio,
oui,
du coup.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on est très complices, c'est tout juste si on ne serrait pas la main.
Ah, d'accord.
Si on pouvait...
Donc, je voulais dire, donc vous faites aussi une parodie des émissions de télé aussi. Hein, le côté, je ne sais plus...
La télé-réalité.
Et puis, ça, on voit ça tous les jours, ouais. Mais c'est horrible d'ailleurs. Enfin, moi, personnellement, je déteste la télé-réalité.
Ah, totalement d'accord, mais c'est ce qu'on regardait. Nos parents, ils nous laissaient devant quand on était gamins. Et c'est ce qui passait sur MTV. Genre, les années 2000, c'est à fond la télé-réalité. Et, beaucoup d'enfants ont grandi en regardant ça. Et c'est une culture très, très vulgaire.
C'est terrible. Moi,
c'est une horreur. Pourquoi ? Parce qu'ils s'immiscent dans la vie privée des gens. Et les personnes qui sont filmées savent qu'elles sont filmées. Enfin, moi, ça m'est arrivé de tomber là-dessus. Hein. Les personnes savent qu'elles sont filmées. On les voit même certainement aller aux chiottes ou taper à la porte des chiottes. Enfin, où on les voit sur le lit, enfin bref, mais c'est une horreur.
Mais c'est extrêmement voyeuriste, et en plus, comme vous dites, c'est à moitié joué, à moitié la réalité, mais on ne sait pas trop...
Quelle est la frontière avec la fiction? C'est vrai que, par exemple, s'il y avait cette émission...
Mais ils font de l'argent là-dessus, moi je trouve ça assez abominable.
Et en plus, souvent, c'est des gens qui sont apprentis comédiens et qui veulent réussir dans le milieu, mais sauf qu'une fois que t'as fait une télé-réalité, bah tu débouches sur rien d'autre. Quoi.
Généralement, tu joues pas dans un Tchekhov derrière.
Ah ouais, ça dépend, non. Mais il y en a une, elle est devenue animatrice de radio sur France Bleu, quand même.
Oui, ouais. Non, mais ça arrive. Non, mais c'est vrai que c'est une mise en scène. Moi, je me rappelle très bien de cette émission sur MTV Next. Où le principe, c'était des rencarts organisés avec un bus. Et il y avait des gens dans le bus qui devaient attendre chacun leur tour d'aller au rencard. Et la personne devait choisir. Et à la fin, c'était « tu restes avec l'argent », qui était au maximum 60 euros. Donc, c'est un peu bête comme principe d'émission. Ouais. Soit un deuxième rencard. Et vraiment, la présentation des personnes au sortir du bus, il y avait un truc honteux, un truc un peu dégradant sur leur vie intime... Et une anecdote normale, genre j'aime bien me faire des brushings. Et vraiment, c'était la forme, moi je trouve que c'est la forme de voyeurisme la plus ultime, parce que là c'était jusqu'au bout, on rentrait dans vraiment l'intimité de la personne. Mm-hmm. Et c'était, je vais mettre mes atouts en valeur. Oh mon Dieu.
Oui, donc ça, c'est très voyant hein, dans votre spectacle, cette critique de la télé, de la télé-réalité. Et puis, c'est vrai que... Mais c'est traité aussi sur un côté aussi, pas comédie, mais je sais pas...
Ah, si, c'est totalement une parodie.
Parodie, voilà, ouais. C'est ça, c'est oui, la parodie. Satire. C'est assez outrancier un peu.
Oui.
Hein, vous êtes dans l'outrance.
Ouais,
totalement. Oui, carrément. En plus, ces passages-là sont tenus par Andréa Furet, qui vraiment les tient avec beaucoup d'humour. Elle a quelque chose dans sa façon de se tenir. C'est vraiment la,
c'est qui, alors,
la poupée
Audrey,
Barbie.
Audrey Furet, c'est celle qui. Bella
non, c'est la blonde Ruby.
Ah oui, oui, oui. Ouais, non, parce que dans l'extrait que j'ai passé, c'est une grande blonde.
Oui, c'est ça, Andréa.
C'est elle.
C'est elle qu'on a entendue au début. Et puis on a pu entendre derrière des nappes un peu électro. Ça, c'est Marco Filipovic, qui est notre comédien masculin.
Ouais.
Et qui est aussi DJ sous le nom de Macornic et qui nous a composé tous les sons électro de la pièce.
Ah voilà, je me posais la question qu'elle est. Quel était l'auteur des extraits musicaux.
Et les chansons, ce qu'on a pu entendre juste après dans l'extrait musical, la première chanson de Bella, c'est Nancy Loïs, la comédienne qui joue Bella, du coup, le rôle titre, qui les a composées.
Ah d'accord.
Voilà, elle a écrit les paroles et les musiques de chansons pop.
On a même écrit un rap.
C'est dommage que les petits flyers s'écrivent si tout petit, parce qu'on a beaucoup, j'ai beaucoup de mal pour lire tout. Oui, mais vous pouvez peut-être nous dire quelle est la distribution hein, de.
Ouais, et puis on va pouvoir vous dire un peu sur l'intrigue de la pièce, peut-être présenter.
Bah là, vous en avez parlé là, il me semble. Hein. Enfin, vous pouvez continuer. Hein. Bah l'intrigue de la pièce, c'est une critique de du Star System. Hein, et aussi
mais en même temps le regard est assez mêlé de tendresse et je sais pas si ça se ressent
mais il y a
de la satirique mais c'est satirique mais il y a aussi beaucoup de tendresse malgré tout pour cette figure de star à laquelle on voulait redonner un peu d'humanité
et puis oui. Cette époque aussi.
Ouais.
Les années 2000 bon bah
mais je trouve quand même que bizarre, cette star quand même elle n'est pas montrée sous son meilleur jour.
Ah non, parce qu'elle est humaine et finalement il y a aussi ça qui doit ressortir, c'est que ça reste une femme qui a passé la trentaine et justement on voulait aussi parler du fait que on est tous amenés à passer le temps et que c'est un univers qui est assez impitoyable et surtout quand on est une femme et peu importe le milieu, il y a une impossible réintégration dans le milieu du travail et là on le voit avec l'agisme qu'elle retente de se donner une image mais que ça foire complet, alors que on peut voir aussi ça dans d'autres métiers où par exemple une femme après une grossesse va avoir du mal à se réintégrer dans un nouveau métier et ça c'est quand même dingue de se dire que mince.
Mais cette différence de traitement entre hommes et femmes, elle est dans toutes les franges de la société. Mais c'est vrai que dans le milieu du showbiz, des stars de cinéma, musique, forcément c'est encore plus exacerbé. Mm-hmm. Enfin, moi j'ai le souvenir de l'histoire de Winona Ryder, qui est une grande icône du cinéma des années 90 américain, qui a joué avec Scorsese, Tim Burton, qui l'a lancé, Coppola aussi, enfin immense actrice, vraiment une icône, avec un look un peu garçon en plus qui plaisait beaucoup. Et au début des années 2000, elle a commis un vol à l'étalage dans une boutique de luxe. Et elle a pris extrêmement cher. Après ça, elle a eu un procès et puis elle s'est retrouvée vraiment au banc de la société. Plus personne ne voulait l'engager. Elle devait tourner un Woody Allen et puis finalement elle a pas trouvé de producteur qui voulait l'assurer. Donc sa carrière pendant 10 ans, voilà. Alors que d'autres comédiens masculins, par exemple, je sais que Robert Downey Jr. aussi, qui est une grande star, qui joue dans les Avengers maintenant, dans les films de super-héros, qui joue Iron Man, lui aussi à cette époque, je crois qu'il avait eu une histoire de vol et ça a été vraiment étouffé. Et même moi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'accord. Ça a été vraiment étouffé. Ouais. Alors que elle, en tant que femme, elle a pris la misogynie aussi.
Ah oui, malheureusement. Ça n'a pas changé. Ouais. Mais pourquoi ce sujet vous tenait tellement à cœur ? Parce que finalement, vous n'êtes pas concerné par ce système.
En fait, il y a ce.
De
faire
ce système, vous faites.
Oui, voilà, c'est quelque chose qui est très loin de nous, en même temps, qui nous a fait rêver.
Ah, c'est en même temps, ça vous a fait rêver. Vous êtes, finalement, c'est parce que vous avez été blessé quelque part, de savoir comment ça se passait. Oui, non, j'avais cru à ces icônes. Oui. Parce que dans la pièce, il y a, une petite jeune fille qui est amoureuse, enfin, qui est une fan de Bella.
Oui.
Et elle est tellement fan qu'elle l'adore, quoi. C'est une idole. Mm. Et finalement, cette petite jeune fille, c'est vous.
Oui.
C'est totalement nous.
Exactement.
C'est totalement nous. Non, mais c'est exactement ça. C'est en réalité, c'est notre blessure d'enfant, d'adolescent, d'avoir cru en des personnages, de s'être attaché à eux et qu'on... on les ait totalement traînés dans la boue. Enfin, c'est comme si on nous avait piqué nos poupées Barbie. Ah, on était très tristes.
Ah, d'accord.
Oui, il y a un peu de ça aussi. C'est que on les aime, on les adule et on. Enfin, c'est notre chose à nous, quoi. C'était un peu notre intériorité.
Et puis, ouais, je pense qu'il y a une fascination aussi pour ces icônes justement qui ont été traînées dans la boue et elles racontent quelque chose de notre société.
Ben oui. Donc on a énormément de tendresse pour ces personnes-là et on voulait leur donner une voix. On s'est dit, c'est le moment en fait. Et puis c'est quand même un peu plus marrant quand on va au théâtre d'aller assister à la vie d'une personnage totalement, d'un personnage totalement exubérant plutôt que la vie de monsieur ou madame tout le monde. On a aussi un peu envie de rêver quand on sort et quand on va au théâtre. Et du coup, on s'est dit, casse la tienne, on va mettre en scène justement ce qui nous a fait rêver.
D'accord, c'est bien. Alors, on va parler juste de la distribution. Et voilà, après, on passera un texte d'un comédien qui s'appelle Jean-Marie Blanche. Bon, là, on parle de la distribution.
Alors, on a Nancy Lewis dans le rôle de Bella, la star en perte de vitesse. Andrea Furet qui joue le rôle de sa maquilleuse et qui est une fille qui démarre de rien, qui se retrouve dans ce milieu et qui elle aussi a des grands rêves et voudrait peut-être devenir une star comme Bella, voire prendre sa place. Voilà, beaucoup d'envie et de jalousie. Marco Filipovic qui interprète le rôle masculin, il est le chorégraphe impresario de Bella, il est aussi son amant. Et donc lui, le rôle cristallise un peu tout ce qu'on peut mettre de...
Toute la toxicité dans les rapports hommes-femmes, principalement. Mais après, tous les personnages sont quand même toxiques entre eux, parce qu'il y a l'envie, il y a la jalousie, le pouvoir qui rentre en compte.
Bah, lui, c'est vraiment le macho... il est odieux, quoi.
Enfin, bref, ah oui, il est complètement odieux.
Voilà. Alors que ça va. On sait que dans l'industrie du cinéma, notamment, il y en a des bien pires.
D'accord.
Pour ne citer que Weinstein.
Il faut dire où ça se passe. Ah oui, vous
n'avez
pas
fini. La pièce se passe à Los Angeles. Donc, voilà. C'est vraiment le rêve de petits Français par rapport. À Hollywood.
Aussi surtout, c'est à la Folie Théâtre.
Ouais, à la Folie Théâtre, c'est le théâtre. Dans le 11e, métro Saint-Ambroise. Alors, dans la distribution, on a encore Ambre Lhomme qui joue June, la jeune fan qui rêve dans sa chambre en regardant ses posters de célébrités.
Et qui finit par développer une relation avec son poster. Donc, elle finit par lui parler dans cette espèce de transe. Trans en fait, clairement il y a un petit pet au casque.
Après, qui n'a pas rêvé de rencontrer
son idole.
Son idole, on a tous quelqu'un qu'on a, un artiste qu'on a idolâtré et on s'est tous imaginé, si je le rencontrais, qu'est-ce que je lui dirais, est-ce qu'il serait sympa avec moi ou pas du tout,
est-ce qu'il ferait un selfie.
Voilà.
Oui, non mais c'est vrai.
Oui.
Mais et ensuite de
et enfin on a Delphine Massia qui joue l'assistante de Bella qui un peu est celle qui organise ses journées selon un agenda très strict,
qui est un peu une caricature de la manageuse hystérique D'accord. Là, on a vraiment été... Oui,
on s'est un peu inspiré du personnage de Meryl Streep dans le Diable s'habille en Prada.
Oui. Donc, d'accord.
Voilà, la manageuse de mode célébrité hyper toxique.
Oh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, alors votre spectacle, il se joue jusqu'au 3 février. Donc, les auditeurs, auditrices ont encore le temps de le découvrir. À la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, dans le 11e à Paris, métro Saint-Ambroise. Et ça se joue tous les jeudis et vendredis. Et samedi, hein, quand même, 3 jours, à 21h30, durée 1h30. Hein.
Oui,
voilà.
C'est ça. Et ouais. J'en profite aussi, comme on a cité les comédiens, pour ne pas oublier quand même l'équipe technique, c'est-à-dire notre scénographe et celle qui a créé les costumes aussi. J'en profite pour les citer. Donc, à la scénographie, Aimé Fleury, et au costume, Marina Sica, parce que c'est quand même important. C'est les métiers invisibles du théâtre et il ne faut pas les oublier. Donc, voilà. Petit aparté pour leur faire un petit big up à l'antenne.
Voilà, merci. On va écouter, on va passer à écouter un texte dit par Jean-Marie d'un poète qui s'appelait Jean Carpentier.
D'un truc qui vient de chez Jean Carpentier. Ouais.
Voilà, Jean ça Carpentier, a été pour une première
ça
fois.
Ça s'appelle l'érosion.
Ils sont très à l'aise.
Alors,
crachin, pluie diluvienne, le vent turbulent s'en mêle, l'eau s'insinue dans les moindres anfractuosités de la roche. Il gèle, la pierre éclate. Et le torrent façonne à douleur ses cailloux en s'apaisant jusqu'au galet de la plage. Du sable et des poussières mêlées au vent comme à la mer. De la jeune Alpe au massif hercynien, gorges étroites, hautes plaines, des cheminées de fées au puits sans fond du Caus, inéluctable érosion, déséquilibre renaissant par nature, résistance inégale aux variations thermiques, granit, lave ou calcaire, le temps use. La pierre réfractaire à la chaleur des flammes. Il n'empêche les feuilles les plus belles, les plus colorées, les plus vivantes au vent d'automne s'envolent dans le ciel. Jean Carpentier, merci.
Alors, maintenant, je vais passer à un autre spectacle que j'ai vu avec Anne Delalleux, Madame Marguerite, qui est à l'Essaillon.
Oui, se joue au Théâtre Essaillon à 21h, les mardis et vendredis et mercredis.
D'accord. Alors, toujours une grande première de passer via le micro. Je vais vous passer la bande-annonce, puis l'entretien que nous avons eu avec Madame Marguerite.
Émilie Chevrillon.
Voilà. Alors, est-ce que ça passe? Parce que je ne sais pas si on a Internet ici, oui. Alors. Voilà. Alors. Cette page ne fonctionne pas. Alors. Ah non, ça ne veut pas fonctionner, la bande-annonce.
Bah, je vais peut-être en profiter une petite seconde pour dire aux auditeurs de ne pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux. À at les amours chiennes sur Instagram, que justement on compte faire continuer l'aventure et faire une tournée et notamment partir à Avignon. Mmh. Donc si jamais il y a parmi eux un public qui n'est pas parisien, que voilà, qui n'hésite pas à regarder, que peut-être ils pourront nous retrouver ailleurs en France.
Très bien. Bon, voilà. je vais passer l'entretien que nous avons eu avec Anne et moi, avec la comédienne qui joue Madame Marguerite. au théâtre de l'Essaillon. Voilà. Alors, la bande-annonce, je vais essayer de la voir autrement. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est bon. Donc, oui, bonsoir. Pour Radio Libertaire, Émilie Chevrillon, qui sort du spectacle Madame Marguerite. Et bon, c'est une pièce d'un Brésilien, Roberto Ataïde.
Mis en scène par Michel Gies.
Voilà. Ça se joue donc au théâtre de l'Essaillon. Le mardi
et
le mercredi
à 21h jusqu'au 17 janvier.
Jusqu'au 17 janvier, voilà. Et donc, alors, bon, je racontais juste la présentation de Roberto Ataïde, qui, je pense, a voulu faire une. Comment on appelle ça?
Une synthèse sur le, le pouvoir au Brésil, la dictature, je pense.
Tout à fait. Il y a un rapport entre la dictature au Brésil. Ça a été écrit dans quelle année, ça ?
Ça a été écrit en 71. Il avait 20 ans quand il a écrit la pièce. C'est incroyable parce qu'on sent toute la fougue et l'irrévérence de la jeunesse révoltée contre la dictature et ses exactions. Et c'est exactement ce que raconte la pièce, sous forme d'une institutrice.
Voilà, c'est, là, la dictatrice... C'est rare, d'ailleurs, qu'on parle de dictatrice. Hein. Oui. Mais il paraît que... Ouais, bon. La dictatrice, c'est une femme qui a la... qui est une institutrice et qui se prend complètement au jeu du pouvoir. Elle se prend pour Dieu ou pour le diable? On ne sait pas. Hein.
On ne sait pas, mais elle demande avec beaucoup d'angoisse si quelqu'un dans la salle s'appelle Jésus ou Messie ou Saint-Esprit, parce que je pense que sa grande frayeur, c'est la concurrence du Christ, c'est la concurrence du Très-Haut. Et au Brésil, ils sont très croyants en plus, donc ça a une double signification. Mais je pense qu'elle se prend un peu pour Dieu,
oui. Ah oui, vous avez du plaisir à jouer cette pièce?
Beaucoup de plaisir, c'est très amusant à jouer parce qu'elle est pleine de ruptures, parce qu'elle est pleine de contradictions. Et elle passe par tous les stades de la perversion. Un coup, elle va caresser le pubis dans le sens du poil, et puis derrière les insulter, leur dire qu'ils ne savent rien, et puis ensuite elle va les monter en épingle, et puis ensuite elle va s'écrouler elle-même. En fait, c'est un parcours, une sorte de parcours.
On a l'impression quand même qu'elle est en plein délire.
Complètement. Bah, je pense qu'elle est vraiment... Elle est complètement...
Là, elle est un peu schizophrène.
Complètement. Je pense qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans son adolescence. Elle lui revient à plusieurs reprises sur l'adolescence qui lui pose un problème. Et elle veut parler à ses élèves avant qu'ils soient adolescents pour les endoctriner le mieux possible. Et son grand désir, elle le dit plusieurs fois dans la pièce, c'est que ses élèves soient complètement impuissants, complètement inexpressifs, incapables de produire la moindre pensée. Voilà, c'est son but dans la vie, c'est ça.
Ah oui, mais ça existe des gens comme ça. Hein,
bien sûr,
bien sûr. Ça existe, oui, oui.
Partout, tout le temps en ce moment, on est sous la dictature de plein de choses. Il n'y a pas un dictateur en France, mais enfin, c'est la dictature des réseaux sociaux qui nous empêche de penser, qui nous empêche de prendre des bouquins, de réfléchir. C'est la dictature
C'est-à-dire qu'on a l'impression que la nuance, personne n'en veut.
Voilà, bon, c'est pas ce que c'est.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est plus ce que c'est que la nuance. Ou alors, si on est nuancé, on est tiède.
Oui, voilà, oui, c'est ça.
Hein, on est trop tiède.
Exactement.
Il faut s'engager à fond pour un oui ou pour un non, mais on n'a pas le droit d'être entre les deux. Quoi.
Exactement. Enfin,
hein, alors que moi, je pense à Anne Sylvestre. Qui chantait « J'aime les gens qui doutent ». Ouais. Enfin, je préfère ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas courageux, hein, mais... Mais alors, dans cette pièce, parfois je regrette, mais ça ne fait pas partie de la pièce, mais on n'entend pas les élèves. Pourtant, ça arrive que les élèves se révoltent. Pourquoi l'auteur...
Parce qu'elle réussit son coup. Non, en fait, le metteur en scène a voulu... Michel Gies a voulu que le public soit déstabilisé, en fait, dès le départ, par des changements d'humeur permanents. Ce qui fait que souvent, les gens me disent on ne sait pas si on peut intervenir ou pas. Donc, il y a des moments où assez régulièrement, les gens réagissent. Par exemple, au moment de la chanson, où je fais chanter les gens, etc. Ça arrive souvent que les gens réagissent. Parfois aussi, les gens répondent à quelques questions. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que, bon, il rit, il se manifeste, mais autrement, pas forcément en intervenant dans la classe. Et je pense que ça vient de là, ça vient du fait qu'au moment où on croit qu'on va pouvoir intervenir, paf, derrière, je vous coupe la chic. C'est construit comme ça, en fait, la mise en scène est construite comme ça.
Ah, d'accord, voilà. D'accord.
Mais
d'accord.
En tout cas, je suis préparée, moi, s'il y a quelqu'un qui va intervenir, je suis préparée.
Parfois, j'entendais des gens chuchoter dans la salle.
Oui, il y avait des gens qui parfois essayaient de dire des choses, alors j'entends pas toujours. J'entends pas.
Quand on est prise dans son rôle, voilà.
Ah, oui. J'entendais pas toujours. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant, oui. Oui, mais vous, le personnage est jeune, malgré tout. Moi, je la verrais plutôt vieille, mais elle est jeune.
Elle est éternelle. Elle le dit à la fin, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Donc, en fait, elle n'a pas d'âge. C'est un rôle qui peut être joué à 20 ans, à 40, à 60, à 80.
Ouais,
à
100, enfin, bon.
Intemporel, quoi. Voilà.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
Puis je vous remercie de penser que je suis jeune.
Oui. Non, mais en même temps, ça me fait penser à Charlot dans Le Dictateur aussi, quand.
Oui,
quand elle est complètement burlesque, quoi.
C'est exactement ça.
Parce qu'elle est burlesque, elle. Ouais. Hein, quand elle se met à danser avec un squelette. Elle est burlesque.
Elle est tout à fait burlesque et c'est ce qui rend le spectacle, je pense, sympathique et le personnage finalement assez attachant.
Oui.
Oui. C'est qu'elle est, elle se prend pour je sais pas quoi, mais enfin, elle est quand même très touchante et très drôle, quoi. Ses accès de folie sont plutôt drôles. Enfin, je pense, j'espère. Oui. Évidemment, je pense souvent à Chaplin, non pas pour l'égaler, mais enfin, je m'en inspire beaucoup. Son dictateur, c'est exactement ça. C'est Madame Marguerite. Elle fait. D'ailleurs, elle parle d'elle à la troisième personne. C'est le culte de la personnalité.
Oui.
Voilà, c'est la toute puissance.
Oui.
C'est comment une institutrice fait valoir son pouvoir absolu sur des enfants, quoi.
Oui. Mais il y a de quoi faire rougir des instituteurs et des professeurs.
Oui, alors évidemment, aujourd'hui, la problématique est plutôt inversée. Les professeurs sont plutôt terrorisés par leurs élèves.
Ah bon ?
Oui. Mais là, c'est un peu l'école à l'ancienne. Par contre, ce qui est toujours d'actualité, malheureusement, c'est les dictatures, le nombre de dictatures et de dictateurs absolument incroyables qui vont chaque année. Il y en a un nouveau qui va se dire, vraiment, on n'a rien appris dans l'humanité. On n'a pas de mémoire, quoi.
Alors,
oui, excusez-moi, vous êtes aussi élève dans la leçon de l'UNESCO.
Absolument.
Alors, il y a des l'école n'est pas finie pour vous, hein.
Non, et je joue aussi dans une pièce que je vais rejouer au Festival d'Avignon, là, que j'ai fait Avignon l'année dernière, qui s'appelle Rentrée 42.
Ah.
Je fais une institutrice aussi en la rentrée 1942 dans une petite école du Marais. Et donc, je m'en fous, je vais faire des professeurs et des élèves. Mais je suis ravie, ça me va très bien.
Donc, on va redire où ça se joue à Les Saillons, le mardi et le mercredi,
21h,
et jusqu'au 17 janvier.
Absolument.
Il y aura une tournée de prévu ?
Oh, bon, on espère, on est en train de la construire, on essaie de travailler.
Eh bien, je vous remercie.
Merci à vous, merci.
Hein, et bonne continuation.
Merci, hein, merci mille fois.
Voilà. Et voilà. Et voilà.
Donc, oui, bonsoir pour Radio Libertaire, Émilie Chevrillon.
Ça ne s'arrête plus.
Ça donne envie, en tout cas.
Oui. Ah ben c'est très bien, elle est fascinante. Hein.
Voilà. Donc, nous avons terminé avec l'entretien d'Émilie Chevrillon, la comédienne qui joue à Les Saillons. Je voulais passer la bande-annonce, mais je vois que le temps passe. Alors, pour les auditeurs qui voudront en savoir plus, ils trouveront la bande-annonce sur le site du Théâtre Essaillon. Comme ça, ils verront comment joue Émilie Chevrillon. Là, il y a une très jolie bande-annonce sur le site du Théâtre Essaillon, tout simplement, au spectacle Madame Marguerite. Donc, ça se donne jusqu'au 17 janvier, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. Les mardis et mercredis, 21h.
D'accord. Eh bien... je crois que l'émission est en train de se terminer. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année parce que je crois que bientôt nous vivons. On n'est que le 30 décembre, on a encore
oui,
le temps.
Encore demain. Il faut fiesta, parce
que voilà.
24 heures.
On a encore 24 heures. Voilà. Merci beaucoup,
merci
Johannes.
Et Victoria.
Pour votre venue, hein, pour nous parler de ce spectacle. Et j'espère qu'il y aura du monde quand même. Il y avait un peu de monde hier. Hein.
Oui, après, pour une jeune compagnie, c'est une création, c'est un sujet qui est difficile.
Surtout en fin d'année.
Oui. Voilà, donc, c'est pas évident. Et c'est vrai que dans le milieu du théâtre, de l'industrie du spectacle, c'est vrai que pas grand chose n'est fait pour les jeunes, malgré tout, pour s'insérer dans le milieu du travail. Même déjà à l'école, on nous forme en tant que comédien, mais on nous forme absolument pas, surtout le point de vue, comment fonder une compagnie, comment s'en sortir, la production, comment gagner sa vie, si on ne veut pas juste être dans les cases, juste comédien et passer des castings. Mais si on veut s'en sortir.
Juste une petite question, vous avez quand même votre propre compagnie.
Oui.
Ouais,
voilà.
Oui,
parce que je vous en parlerai à la fin de l'émission. Bon, c'est terminé. Bonne fin d'année.
Bonne fin à tous.
Et à l'année prochaine.
Bonne fin d'année.
T'as bien capté, Buvoir, Tur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Tur Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, Tur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
On va parler de Paula, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et eh bien si vous avez suivi l'agenda de la radio, eh bien vous aurez découvert le sujet de cette émission aujourd'hui. Ce sont les nouveaux traducteurs, quand je dis les nouveaux traducteurs, vous allez comprendre, les nouveaux traducteurs qui sont en studio aujourd'hui. Alors les nouveaux traducteurs, mais c'est quoi, c'est qui les nouveaux traducteurs? Alors aujourd'hui, c'est Benoît Tadier. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et puis Marc Voline. Alors
bonjour.
Marc Voline, quasiment un habitué de l'émission. Et puis nous allons avoir au téléphone, nous allons l'appeler Tristan Lapoussière. Alors Benoît Tadier, lui, est en charge plutôt chez Gallimard, outre qu'il est professeur d'université, n'est-ce pas?
Oui.
Il est aussi.
Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait. Il travaille également, surtout pour la maison Gallimard, et en particulier, dernièrement, il s'est chargé de la nouvelle traduction, il y a un sticker en couverture du Raymond Chandler, Le Grand Sommeil, énorme chef-d'œuvre de Chandler, hein, Le Grand Sommeil. Tu t'es chargé de la traduction, et également d'une préface, un petit matériel du...
Oui, pour contextualiser un peu.
Contextualiser la chose. Et puis, en parallèle, La Dame dans le lac, et non pas La Dame du lac. Mais oui, les amis, c'était pas La Dame dans le lac. C'est pas comme ça qu'il fallait... c'était pas La Dame du lac qu'il fallait traduire, c'était La Dame dans le lac. Et celle-ci, c'est une traduction de Nicolas Richard, un de tes camarades,
oui,
avec une préface inédite du même... Nicolas Richard. Il faut dire aussi que Benoît Tadier s'est chargé du quarto Burnett.
Oui.
William Riley Burnett. et non pas William Richard Burnett,
non.
Comme j'étais dans la série noire à l'époque. Et tu t'es chargé du quarto qui est un fort volume, comme on dit.
Assez gros.
Oui, il y a un énorme matériel